Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec Moment Spirit, la leçon de l'arbre. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Roger Pérez qui nous avait parlé de la fraternité en France. La connaissance qui invite à lire un livre disponible sur l'encyclopédie Spirit, Itinéraire Spirit de Roger Pérez. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, Savoir souffrir. La réforme intime à partir de l'œuvre d'André Luis en dupliquant les comportements et enseignements des esprits dans notre vie quotidienne. Pour nos solars, le terme de réforme porte sur le comment en s'inspirant de l'aura, traverser au mieux en tant que mère les périodes douloureuses. La prière finale s'inspirera de la question 399 du Livre des Esprits. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, la leçon de l'arbre. Écoutons.
Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. La leçon de l'arbre. Un homme bon, amoureux de la nature, planta un jour une jeune pousse en plein soleil. Elle germa de façon exubérante et resplendissante de vie. Heureuse, elle étirait ses tiges de plus en plus longues. Au début, presque personne ne remarqua cet arbuste qui grandissait et se couvrait de feuilles secouées au vent doux qui les effleurait. Mais bientôt, transformé en arbre robuste, ses rameaux étaient devenus de solides branchages au point d'acquérir la maturité végétale. Les jours de canicule, les gens se reposaient sous sa frondaison en attendant le transport qui les conduirait à leur destination. Les enfants se suspendaient à lui et se balançaient d'avant en arrière. Tout le monde s'habitua à cette présence amicale et silencieuse qui fournissait de l'ombre. Il supportait ceux qui s'appuyaient contre son tronc ou endurait les gamins qui y montaient et y descendaient tout en s'accrochant à ses branches. Mais le jour arriva où un homme mécontent décida de couper l'arbre. Il ne voulait plus se donner la peine de ramasser les feuilles mortes en automne, ni de balayer les fleurs au printemps qui coloraient l'herbe et formaient d'intéressantes arabesques tapissant le sol. Quand le jour se leva, il ne restait plus que des branches entassées sur le trottoir et un morceau de tronc nu, presque honteux. Les enfants pleuraient, les adultes demandaient qui avait bien pu faire une chose pareille. Debout, sans protection aucune, il ne subsistait que la souche dépouillée, endurant le froid des nuits hivernales et la chaleur des après-midi, mais aussi la pluie et le vent. Tout le monde se disait que l'arbre mourait de tristesse et de douleur face à une telle cruauté. Il avait tout donné de lui-même, et cela sans réserve. Qu'avait-il reçu en échange, sinon la peine de mort? Mais les jours passaient et passaient, les semaines qui devenaient des mois, et les mois des saisons. Or, courageusement, il se mit nouveau à germer. Des petites pousses vertes apparurent au sommet du tronc et sur les côtés. Des feuilles tendres annonçaient le retour à la vie. L'arbre oublia les mauvais traitements la tentative d'assassinat et dans un geste de véritable pardon, il fut prêt à revivre. En se référant à de vieux arbres, le grand poète Olavo Bilac a écrit un jour « Ne pleurons pas la jeunesse, mon ami. Vieillissons en riant, vieillissons. Comme les arbres forts vieillissent dans la gloire de la joie et de la bonté. En accueillant les oiseaux dans les branches, en fournissant de l'ombre et du réconfort à ceux qui souffrent. » Pour paraphraser le poète, nous dirions que ce serait bien si nous pouvions apprendre avec les arbres la leçon du pardon en présentant à celui qui nous blesse l'autre face, celle du don. Il serait si bon de savoir s'élever en offrant des fleurs et des fruits en abondance lorsque nous sommes fauchés par la calomnie et la méchanceté. Pensons-y, le pardon est un geste qui n'a pas de regret et qui ne se nourrit pas de chagrin. C'est la posture de ceux qui sont libres, car ils ne se laissent pas emprisonner par la douleur de la révolte en usant d'injustice. Ils ne sont pas accablés par la jalousie des mauvais. Ils vivent pleinement, produisent tout le bien qu'ils peuvent et excusent les actes indignes propres à ceux qui sont prisonniers de leur petitesse. Soyons donc comme l'arbre ami, rendons le mal par le bien et donnons plus d'importance à ceux qui nous aiment qu'à ceux qui nous méprisent. Valorisons l'amour, valorisons le bien. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit, offert par Livraria Mundo Espirita.com.br.
Qu'est-ce que le spiritisme ? Le spiritisme est une philosophie, un enseignement qui explique ce que nous sommes, d'où nous venons, vers où nous allons, comment faire pour y parvenir. Il apporte des réponses aux questions existentielles que se pose l'homme. Il traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Nous vous proposons d'écouter Roger Pérez qui était intervenu dans une réunion pour parler de la fraternité en France.
Nous sommes arrivés à un point logique d'ailleurs de dire je ne sais pas le nombre de groupes, je n'ai pas dans ma tête qu'il y a en France, qui existent, certains depuis pas mal d'années, d'autres qui sont en train d'être en formation. Mais est-ce que c'est dû à l'esprit français, l'esprit gaulois, ou est-ce que c'est dû à un manque de bonne volonté pour se dire, en raison de la doctrine que nous prétendons défendre et vivre, est-ce qu'il y a cette notion importante de fraternité ? Je ne veux pas juger de cette question, mais je me dis que c'est quand même un devoir, en conscience et en vertu des paroles de Jésus, car le spiritisme n'est jamais qu'une continuation du christianisme pur. Donc en raison de cette doctrine que nous devons à Allan Kardec, d'abord par respect et reconnaissance de cette formule de Jésus que tout le monde connaît, « Aimez-vous les uns les autres ». À partir de cette formule qui a traversé le temps, qui existe toujours, et que le spiritisme est en mesure de pratiquer, on se pose la question, est-ce que nous nous aimons les uns les autres, et est-ce que nous pratiquons la fraternité ? Je ne répondrai pas à cette question directement, mais on peut la poser en soi et en sa propre conscience. Qu'est-ce que la conscience en réalité ? Si ce n'est que la voix de notre guide spirituel qui nous transmet la divine providence et qui nous transmet de continuer à l'œuvre de Kardec avec respect et reconnaissance. Et puis, avec Gérard, comme deux pauvres pèlerins, n'est-ce pas, partant avec un bâton qui nous soutient, c'est-à-dire la doctrine, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas lancer cette idée d'avoir rien que des sentiments fraternels sans intervenir dans l'organisation de tel ou tel groupe? Voilà la question que nous nous sommes posée. Et nous sommes tombés d'accord tous les deux avec une osmose spirituelle toute simple et qui n'impose rien. Essayons de dialoguer entre nous. On apprend toujours des autres. Mais ça, c'est de l'humilité. Et quand on pratique l'humilité, nous avons l'appui des guides spirituels. Voilà 58 ans que je suis rentré dans le spiritisme. Et j'y suis rentré parce que toute la famille était médium, mais ils n'étaient pas spirites. Les phénomènes que j'ai vus, moi tout gosse, dans la ferme du grand-père, ça ferait l'objet d'un livre. Des matérialisations, je les ai vécues. Au centre de Casablanca, où on guérissait, où on diffusait la doctrine. Ici en France, il fallait continuer. Il s'agissait de se connaître. Connais-toi toi-même. Il vous sera pardonné 77 fois 7 fois, dit Jésus. Manière orientale de dire autant de fois que cela sera nécessaire. Nous pratiquons la même doctrine. Nous suivons ce que nous disent les esprits par l'intermédiaire d'Allan Kardec et surtout également de son épouse, parce qu'on oublie de parler de son épouse, qui a coopéré à son œuvre. Et puis nous voyons que la fraternité, en réalité, à mon avis, dans le contexte actuel, nous paraît loin, personnellement. Nous ne la pratiquons pas. Et qu'est-ce que nous indique la doctrine spirite? Ce sens de la fraternité et de l'amour du prochain. Alors tous les deux, là, comme deux malheureux, on a dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Oui, Gérard, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est le symbole même de ce que nous enseignent les esprits. Et si on n'écoute pas ce que nous disent les esprits guides, est-ce que nous servons le spiritisme? Pas d'interrogation. Alors c'est la conscience qui va parler. Qu'est-ce que la conscience? C'est la question 919 du livre des esprits, où Saint Augustin nous dit qu'il arrivait à pratiquer tous les jours l'examen de conscience. Qu'est-ce que la conscience sinon la voix du guide? Alors, posons-nous la question. Est-ce que nous sommes vraiment spirites? Dans nos comportements, dans nos jugements? Est-ce que l'autre est vraiment mon frère? Est-ce que l'autre est vraiment dans la doctrine spirite? À chacun de répondre à cette question. La question 919 des esprits est symbolique et en même temps éclairante. Qui pratique les âmes de conscience? C'est à chacun d'entre nous d'y répondre. Mais nous devons faire cet examen de conscience. Dans le climat actuel que vit la mouvance spirituelle française, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour bien nous connaître et servir ensemble le spiritisme en toute liberté? Et c'est l'objet de cette réunion où chacun donnera son avis, s'il est possible, comme Gérard à organiser quelque chose, c'est-à-dire une fois par mois. Bon, il y a la région lyonnaise, mais c'est pas tout. Il y a la France entière, la mouvance spirite française, qu'il faudra mettre au point, que l'on veuille ou non, parce que c'est dans l'ordre divin. Allons-nous trahir Kardec? Voilà l'interrogation qui nous a amenés tous les deux à dire, lançons cet appel, avec tout ce magnifique cathédrale, c'est une cathédrale ça ici à présent, spirit bien sûr, de ce qu'a fait notre cher Aimé Gérard et sa famille. Je crois que cet appel, et la générosité de Gérard, nous sommes, on dirait, rencontrés par la volonté divine, on ne se connaissait pas. Non. Mais on a lancé l'idée Et si nous, nous pouvions nous réunir et construire quelque chose au service du spiritisme de la France? Kardec, Denis, Delanne, qui sont nos frères aînés, est-ce que nous faisons ce qu'ils nous ont demandé? Je ne répondrai pas à cette question personnellement. Je pense simplement à un point d'interrogation. Voilà ce que nous aimerions construire, bâtir, et voir dans l'autre un frère. S'écouter. Et agir.
Voilà. Ah, super. Très bon programme.
C'est un programme qu'il devient, à moi dans mes consciences, comme la tienne, même s'il y a des obstacles.
Oui, mais nous sommes deux consciences, mais c'est pas un problème.
Même s'il y a des obstacles. Jésus aussi a rencontré des obstacles, mais il a fini par triompher. Et nous donner les conseils que le Père lui transmettait. Alors, au nom de Jésus, prenons conscience de son travail. Et prenons conscience avec de Denis, de Delanne, de Chico Xavier et une foule encore d'esprits qui sont venus pour nous apporter le message divin. Est-ce que nous l'avons compris? Est-ce que nous l'appliquons? Avons-nous la conscience tranquille? Merci.
Très bien, merci Roger de ton intervention. Très bien parlé.
Non, c'est un travail qu'il faut faire.
Voilà.
Avec toute humilité.
Absolument.
Quand on voit le travail que tu as fait là.
Non, c'est
un travail. Non, mais attention. Si tu as fait ce travail, c'est parce qu'il y a une raison.
Ah, il l'a toujours dit, hein. Il a toujours dit que c'était un lieu de. Que ce serait un lieu de rencontre.
Voilà.
Et spirit, bien sûr, avant tout.
Ben oui, ça ne va pas être autre chose que spirit. Hein.
Alors, il ne faut pas décevoir Gérard non plus.
Non, mais,
et respecter son travail.
Mais, dès les premiers rapports, tous les deux, on a commencé par se dire la même chose. Alors, il faut bien dire qu'il y a là quand même une intervention du monde spirituel.
Oui, compte tenu.
On ne se rencontre pas au hasard.
Voilà, c'est un.
Et puis nous savons très bien qu'il y a d'autres frères qui sont là et qui ont des capacités pour travailler pour l'union quand même.
Je suis content que Charles soit là parce que c'est un grand travailleur. Tout le monde le connaît, je pense. Ouais, j'en ai parlé.
Attention, il y a des ailes qui vont nous pousser.
Moi, j'ai eu une fois. J'ai eu le téléphone après, je lui ai dit, je ne me souviens pas de toi, par contre je me souviens de ton accent. J'avais vu une fois à Bron pour une conférence,
oui.
Et son accent m'est tout de suite revenu en mémoire.
Et tu vois, et
il y a, voilà, c'est Charles.
Il y a quand même des liens qui se font indépendamment de notre volonté.
Ah oui, tout à fait.
Donc ça vient d'en haut.
Charles est un grand travailleur parce qu'il participe à beaucoup de réalisations spirituelles, aussi bien nationales qu'internationales, qu'on ne citeront pas, mais qui travaille beaucoup et qui n'hésite pas à se déplacer. Alors, si tu as deux, trois choses à nous dire, Charles, avec plaisir.
Ben, moi, je n'ai rien préparé. Hein.
Je non plus.
Je n'avais pas d'idée préméditée.
Ah, moi, je n'ai rien préparé. Quand c'est comme ça. Moi, je n'ai rien préparé. Je demande à mon guide, fais-moi bien parler. Je
dis pas dis pas ça, il va se lever, Gilles, il va partir.
D'accord. Je crois qu'on a tous les fondements dans les œuvres de base de la codification. Hein. Il y a notamment. Dans l'Évangile selon le spiritisme, quelques très beaux messages de l'Esprit de vérité,
oui.
Qui disaient, frères, tendez-vous la main, unissez-vous pour pas que le travail soit retardé à cause de vous, parce que arrêter, il sera jamais arrêté le travail. Hein, que ceux qui essayent de l'arrêter, c'est comme si on essaye d'arrêter un cours d'eau, il y a un moment où ça va se faire avec ou sans. Voilà. Et donc, il y a des appels vibrants pour le travail en commun. Cela dit, les esprits nous disent aussi, toujours dans ces mêmes livres, que c'est Ebezerra de Menezes qui a donné une communication via Divaldo encore il y a 10 jours, nous disait clairement que Jésus n'a pas foulé de route asphaltée à son époque, hein, et que le chemin était quand même assez difficile, qu'il allait y avoir des écueils et des obstacles, que si nous sommes tous là, c'est parce que chacun de nous traîne encore des choses de ses vies passées pour lesquelles nous avons besoin donc d'effectuer du travail, de réparer toutes ces erreurs de pardonner à ceux qu'on n'a pas pardonné, etc. Et c'est clair que tout ça, on s'en ressent un petit peu au sein du mouvement, malheureusement. Hein. Maintenant, ce qui est clair aussi, c'est que dès qu'on y met un peu du sien, dès qu'on y met un peu de son cœur, dès qu'on remet un peu de bonne volonté, ben on voit immédiatement les esprits qui viennent et qui nous aident et qui nous poussent et qui font que les choses s'arrangent parfois de manière tout à fait inattendue et beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Et voilà, alors bon, c'est clair que c'est à nous de rester travailleurs, vigilants, hein, faut de tous les jours, hein, surtout les personnes qui ont une médiumnité. C'est vraiment, je dirais, la réforme intime qui va faire de sorte que le travail soit plus efficace, que nous ouvrons la porte à ces guides qui sont là et qui en fait, c'est un autre ami qui était très cher, Roger, qui s'appelait Paolo Roberto da Costa.
Ah oui, oui.
Donc un jour, il a eu une vision, il a dit, il a vu les esprits dans l'au-delà, il y avait une table, et puis ils étaient là. Et les esprits disaient, nous on est prêts, on n'attend que vous maintenant. Dès que vous serez prêts, on fonce. Et donc voilà.
Demain, il parlait comme ça. Mais...
Ah oui, c'est ça, de voir le futur et tout. Il était très...
Futuro.
Et en fait, c'est on le voit tous les jours, quoi. C'est-à-dire. Hein. Mais bon, ça nous demande en fait une vigilance, parce qu'il y a le travail, il y a la crise, il y a les contrariétés du quotidien, il y a des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. On a parfois l'impression d'être tout seul à tirer une charrette, et puis que tout le monde est sur la charrette à se laisser tirer, voire qu'il y en a quelques-uns qui se mettent derrière et qui retiennent la charrette. Donc, mais il faut continuer et puis maintenir cette foi et cette force dans le travail. Et donc, c'est à partir de là que les choses se font. Ce qu'on a vu aussi à Liège, là, il y avait une réunion donc du Conseil Spirit International où il y avait plus d'une vingtaine des représentants de plus d'une vingtaine de pays qui étaient présents. C'est que ben bon les gens savent que au sein du mouvement spirit français il y a quelques vagues et tout, et bon ça les inquiète, donc ils sont là avec nous, ils prêts à nous aider et à pousser, à prier, faire ce qu'il faut pour essayer de faire de sorte que les choses s'arrangent, quoi. Donc finalement ça tient qu'à nous de montrer de quel côté il y a le plus de charité, et puis c'est ça qui prime à long terme. C'est le travail, c'est la charité, c'est ça qui compte. C'est pas la force de la voix ou l'influence qu'on peut avoir ou le nombre de. C'est vraiment la qualité et puis la charité qui prime. Et ça, les gens on voit maintenant chaque réunion du Conseil international. Il y a une synergie qui est toujours de plus en plus, cette communion de pensée est toujours de plus en plus forte, et les gens, ils le sentent. Les frères qui sont avec nous, en face de nous, ils le sentent. Ils voient de quel côté vraiment vient l'inspiration, de quel côté il y a la sincérité, de quel côté il y a le travail. Et donc, sans, encore une fois, sans vouloir porter des jugements, c'est vraiment ce à quoi il faut en permanence encourager un chacun. Parce que c'est par le travail qu'on arrivera à résoudre les problèmes.
Je voulais dire, quand il y a de l'antipathie entre spirites, on oublie de dire que cette antipathie, elle vient d'autres incarnations. Hein. Et il faut effacer la question. Plus on a de l'antipathie par un frère spirite, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Donc notre incarnation est nécessaire pour gommer ça.
C'est même plus que ça, c'est la plupart d'entre nous, ici présents, ou même des frères des autres pays, si on est aujourd'hui dans le mouvement spirit et qu'on subit des contrariétés et puis que ça nous demande un grand engagement, eh ben c'est parce que dans le passé, enfin en tout cas moi pour ce qui me concerne, je suis persuadé, intimement persuadé, on a travaillé contre peut-être le spiritisme, contre peut-être... Le christianisme contre un certain nombre de choses, et aujourd'hui on est là pour travailler, pour se racheter, quoi.
Oui, voilà.
Et donc Dieu nous a donné cette opportunité dans cette vie de prendre connaissance de la doctrine spirit, de rentrer dans le mouvement, de c'est cette flamme qui a été apportée par Kardec pour illuminer l'humanité, que Dieu nous a donné dans cette vie l'occasion de venir et puis de prendre cette flamme et puis de la porter haut, de pas la mettre sous le boisseau, mais plutôt de la divulguer et puis de montrer par notre attitude et notre exemple, d'essayer de ramener le maximum de personnes aux consolations dont ils ont besoin. Quand on voit, là, il y a une crise, mais bon, qu'est-ce que c'est que la crise? Il y a, quand on regarde en France, vous avez 60 000 suicides par an.
60 000?
Oui, chaque année.
États-Unis, c'est pire.
Il y a 220 000 avortements en France par an. Donc c'est une ville comme Mulhouse, rayée de la carte, chaque année. Et donc il y a une carence énorme. Combien de personnes se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques alors qu'ils sont tout simplement médiums qui s'ignorent? Et donc on a un travail énorme à faire, donc de diffusion, de divulgation, pour apporter justement cette lumière qui a été donnée par l'Esprit de vérité à Kardec, et pour la mettre à la disposition d'un maximum de nos frères, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier, pour pouvoir trouver aussi des solutions à toutes ces questions.
Le spiritisme, comment a-t-il pris naissance? Au milieu du XIXe siècle, des personnes de différents pays du monde avaient pris pour habitude d'invoquer des esprits au moyen des tables tournantes. Cette activité, pratiquée surtout par curiosité et intérêt pour l'étrange, attira aussi l'attention de plusieurs érudits de l'époque, qui en firent une étude sérieuse. En s'intéressant à ces phénomènes, ils se rendirent compte que des êtres non matériels et dotés d'intelligence provoquaient les mouvements de ces tables. De là, on leur posa de nombreuses questions auxquelles ils répondirent. Ces intelligences se présentèrent comme étant les esprits des personnes décédées. Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivail, pédagogue français, né en 1804, se mit en 1855 à l'étude de ces phénomènes avec un certain scepticisme. Il investit alors tout son temps à leur compréhension. De ce travail naquirent 5 livres et des dizaines de revues qui forment aujourd'hui les bases de la philosophie spirite. C'est ainsi que naquit le spiritisme. La connaissance qui invite à lire un livre disponible sur l'Encyclopédie Spirite, Itinéraire Spirite de Roger Pérez.
Alors, qu'est-ce que nous pourrions lire ensemble aujourd'hui dans l'Encyclopédie Spirite pour encore mieux apprendre, comprendre le spiritisme, l'enseignement des esprits et celui de Jésus? Allons dans la rubrique menu, onglet livres, puis onglet autres livres en lien avec le spiritisme. Allons à la lettre P et nous y trouvons Roger Pérez et un PDF intitulé Itinéraire spirite. D'habitude, dans cette rubrique, je vous fais un résumé, je vous indique les points saillants, je vous indique à quelles questions vous pouvez trouver des réponses en lisant le livre proposé. Aujourd'hui, je vous propose de vous lire directement cette 20aine de pages, riche d'informations, d'analyses, de liens, faits à la fois avec des auteurs historiques, des périodes de l'histoire, des informations où la bibliographie d'Allan Kardec est reprise, ainsi que des éléments biographiques. 20 pages pleines de richesse et de sagesse. Allez, commençons la lecture. Le but essentiel du spiritisme, dit son codificateur Allan Kardec, ouvrez les guillemets, c'est l'amélioration des hommes. Fermez les guillemets. Il est par ailleurs courant de lire dans tous les authentiques manifestes spirites que, ouvrez les guillemets, le spiritisme est une ère nouvelle pour l'humanité en tant que révélation. Fermez les guillemets. Nous tenons dès l'abord à préciser que notre intention n'est point de convaincre, ni de heurter les convictions sincères de tout un chacun. Il est dans notre éthique de respecter les croyances et la foi de tous nos frères en humanité. Ouvrez les guillemets. Le spiritisme a pour vocation d'enseigner, mais de ne rien imposer. Fermez les guillemets. Comme l'a dit Léon Denis, considéré selon notre point de vue comme le bossuet du spiritisme, autant par ses dons d'orateur que par ses talents d'écrivain. Son livre, Jeanne d'Arc Médium, renferme des richesses d'informations et de spiritualité remarquables. Cela dit, laissons nos pensées pour quelques instants s'évader à travers l'espace et le temps et transportons-nous dans une jolie petite ville suisse que l'on nomme Yverdon, bâtie à l'extrémité du lac de Neuchâtel, dont l'observateur le plus attentif ne saurait apercevoir les limites. Dans ce site, en l'année 1818, se trouve une école où l'on peut distinguer un garçonnet de 14 ans. La plupart de ses petits camarades s'ébattent joyeusement. Lui, par contre, donne à quelques jeunes gens de lumineuses explications sur certains points du cours qu'ils n'ont pas compris. C'est un enfant surdoué, comme nous les dénommons de nos jours. Ses yeux scintillent d'un éclat d'intelligence. On lit dans son regard une bonté infinie. Cet enfant, qui préfère l'étude aux jeux bruyants et qui déjà manifeste tant d'aptitudes pour l'enseignement, n'est autre que Denisard Hippolyte Léon Rivaille, né à Lyon, dans une famille traditionnellement catholique et non moins traditionnellement vouée à la magistrature. Rivaille, selon nous, s'est incarné pour dégager d'une masse compacte de documents venus de tous les points du globe la doctrine spirit, qui compte aujourd'hui à travers le monde plus de 50 millions d'adeptes. Pendant son séjour à Yverdon qui dura 7 ans, Rivaille avait passé brillamment ses examens de sciences et de lettres. Il avait appris 6 langues, ce qui d'ailleurs lui permit de traduire Fénelon en allemand et de planifier le mouvement spirit international beaucoup plus tard à 55 ans. En 1825, il arrive à Paris pour enseigner, selon les principes du célèbre pédagogue Pestalozzi, dont Michelet, parlant de lui dans Notre Fils, salue l'homme de bien et reconnu l'apôtre de la pédagogie moderne parce que sa vie eut toujours comme but principal de régénérer l'humanité par l'instruction. L'Assemblée législative lui décerne en 1792 le titre de citoyen français. Il conquit la gloire, mais non la fortune. Rivaille avait lui aussi choisi par vocation et par passion l'enseignement. C'est en tant que tel qu'il produisit les œuvres pédagogiques suivantes. 1828, plan proposé pour l'amélioration de l'instruction publique. 1829, cours pratique et théorique d'arithmétique d'après la méthode de Pestalozzi à l'usage des instituteurs et des mères de famille. 1831, grammaire française classique. 1846, manuel des examens pour le brevet de capacité, solution raisonnée des questions et des problèmes d'arithmétique et de géométrie. 1849, catéchisme grammatical de la langue française. 1849, programme des cours usuels de chimie, physique, astronomie, physiologie qu'il professait au lycée polymathique. Dictée normale des examens de l'Hôtel de Ville et de la Sorbonne, accompagnée de dictées spéciales sur les difficultés orthographiques. Ouvrage très apprécié lors de sa parution. Constamment occupé à rendre attrayants et intéressants les systèmes d'éducation, il inventa dans le même temps une méthode ingénieuse pour apprendre à compter et un tableau mémomnique de l'histoire de France ayant pour objet de fixer dans la mémoire des élèves des dates et des événements remarquables qui illustrent chaque règne. Il était en outre membre de plusieurs sociétés savantes, entre autres de l'Académie royale d'Arras, qui dans un concours de 1831 le couronna pour un mémoire remarquable sur le sujet suivant. Quel est le système d'études le plus en harmonie avec les besoins de l'époque? On peut constater que ce sujet reste toujours d'une brûlante actualité. Jacques Lantier, dans son livre « Le spiritisme », édité chez Grasset, écrit « Ouvrez les guillemets ». J'étonnerai sans doute beaucoup de lecteurs en leur révélant que le rayonnement du génie français à l'étranger n'est pas toujours dû en premier lieu, comme ils le supposent, à Voltaire, Rousseau, la Révolution française, Napoléon ou Pasteur, mais souvent à Allan Kardec et au spiritisme. Jacques Lantier n'est pas spirite, mais reste essentiellement un chercheur de la vérité, d'où qu'elle vienne. Homme de science, il sait écarter les ragots, les sectarismes et la calomnie à bon marché. Anna Blackwell, la traductrice des œuvres d'Allan Kardec en anglais, et qu'il a connu personnellement, le décrit ainsi. Ouvrez les guillemets. Il était d'aspect robuste, avec une force de lutteur bien façonné. Ses yeux étaient gris clair. Il était tenace et actif dans son travail. Il avait un tempérament calme, prévoyant et réaliste, qui donnait parfois une impression de froideur, accompagné d'un scepticisme naturel. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Très logique dans ses raisonnements et ses argumentations, il ne manquait jamais de trouver des applications pratiques pour toutes les idées qu'il avait. Il était aussi loin du mysticisme que des débordements que donne parfois l'enthousiasme d'une découverte. Pondéré en toute chose, il parlait lentement et simplement, sans affection, avec sincérité et honnêteté, qualités qui toujours ont été les traits marquants de sa personnalité. Sans provoquer les discussions interminables, ni tenter de les éviter, il recevait aimablement tous les visiteurs qui venaient des quatre coins du monde, en respectant les idées de chacun. Il répondait avec courtoisie aux objections qu'on lui faisait. Il informait avec patience ceux qui lui demandaient comment il était parvenu à connaître le monde de l'au-delà. Il disait toujours franchement et clairement les choses. Il arrivait quelquefois que son visage s'irradiait avec un sourire agréable et amusant. Il recevait toutes sortes de personnes de niveaux sociaux différents, du plus humble jusqu'à des personnalités du monde littéraire, artistique et scientifique. Napoléon III, pour qui la doctrine spirite était familière, le reçut à plusieurs reprises aux Tuileries. Fermez les guillemets. Rivaille professait à Paris depuis 1825, mais c'est à partir de 1823, alors qu'il n'avait que 19 ans, qu'il se sentit attiré, avec le calme et la sincérité qui le caractérisaient, par l'étude du magnétisme. Mais qui dit magnétisme ne dit pas spiritisme. Et Rivaille vécut jusqu'à 50 ans sans savoir que certains humains ont la possibilité de converser avec les esprits. En 1854, un magnétiseur dénommé Fortin lui dit, ouvrez les guillemets, « Non seulement on peut faire tourner une table en la magnétisant, mais encore on peut la faire parler, et répondre aux questions posées. Fermez les guillemets. Réponse du professeur Rivaille. Ouvrez les guillemets. Oh, c'est là une autre question. J'y croirai quand je le verrai et quand on m'aura prouvé qu'une table a un cerveau pour penser, des nerfs pour sentir et qu'elle peut devenir somnambule. Jusque-là, permettez-moi de n'y voir qu'un conte à dormir debout. Fermez les guillemets. L'année suivante est l'année où Rivaille va commencer une étude et une recherche inédite. Un de ses amis, Carlotti, bouillant corse, parle à Rivaille de l'intervention des esprits. Mais son enthousiasme laisse sceptique Rivaille qui ne s'emballait jamais. Disons-le, les premiers contacts de Rivaille avec ce qu'il appela plus tard le spiritisme ne fut guère probant. Néanmoins, après 3 ans d'observation, de contrôle sévère et de mise à l'épreuve des médiums, et après avoir démasqué des imposteurs et des charlatans, Rivaille, après qu'on lui ait révélé qu'au temps des druides il s'appelait Allan Kardec, produit sous ce pseudonyme les œuvres suivantes. Le Livre des Esprits, en avril 1857. Il eut un retentissant succès. Ce livre est toujours édité. Il se compose de 1019 questions posées aux esprits, de 15 chapitres pour l'introduction et de 9 chapitres pour la conclusion. Il est remarquable de noter le passage suivant, dicté par l'esprit de vérité, cette entité spirituelle qui guida Allan Kardec dans tous ses écrits. Ouvrez les guillemets. Souviens-toi que les bons esprits n'assistent que ceux qui servent Dieu avec humilité et désintéressement et qu'ils répudient quiconque cherche dans la voie du ciel un marchepied pour les choses de la terre. Ils se retirent de l'orgueilleux et de l'ambitieux. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. L'orgueil et l'ambition seront toujours une barrière entre l'homme et Dieu. C'est un voile jeté sur les célestes clartés. Et Dieu ne peut se servir de l'aveugle pour faire comprendre la lumière. Fermez les guillemets. La revue Spirit en 1858. Seul contre tous, Allan Kardec fait publier ce premier journal spirit que nous avons aujourd'hui au sein de l'Union Spirit française et francophone la tâche de faire perdurer. Le Livre des médiums, en avril 1864. L'Évangile, selon le spiritisme, en avril 1864, dont voici quelques extraits. Ouvrez les guillemets. Quiconque connaît les conditions dans lesquelles les bons esprits se communiquent, leur répulsion pour tout ce qui est d'intérêt égoïste, et qui sait combien il faut peu de choses pour les éloigner, ne pourra jamais admettre que des esprits supérieurs soient à la disposition du premier venu qui les appellerait à tant la séance. Le simple bon sens repousse une telle pensée. Ne serait-ce pas aussi une profanation d'évoquer à prix d'argent les êtres que nous respectons ou qui nous sont chers ? Fermez les guillemets. Sans doute, on peut avoir ainsi des manifestations, mais qui pourrait en garantir la sincérité ? Les esprits légers, menteurs, espiègles et toute la cohue des esprits inférieurs, fort peu scrupuleux, viennent toujours et sont toujours prêts à répondre à ce que l'on demande sans se soucier de la vérité. Celui donc qui veut des communications sérieuses doit d'abord lui demander sérieusement, puis s'édifier sur la nature des sympathies du médium avec les êtres du monde spirituel. Or, la première condition pour se concilier la bienveillance des bons esprits c'est l'humilité, le dévouement, l'abnégation, le désintéressement moral et matériel le plus absolu. Et quant à la pratique de la médiumnité, on lit ceci, ouvrez les guillemets. À côté de la question morale, se présente une considération effective non moins importante, qui tient à la nature même de la faculté. La médiumnité sérieuse ne peut être et ne sera jamais une profession, non seulement parce qu'elle serait discréditée moralement et bientôt assimilée aux diseurs de bonne aventure, mais aussi parce qu'un obstacle matériel s'y oppose. C'est une faculté essentiellement mobile, fugitive et variable, sur la permanence de laquelle nul ne peut compter. Ce serait donc, pour l'exploiteur, une ressource tout à fait incertaine, qui peut lui manquer au moment où elle lui serait la plus nécessaire. Autre chose est un talent acquis par l'étude et le travail, et qui, par cela même, est une propriété dont il est naturellement permis de tirer parti. Mais la médiumnité n'est ni un art ni un talent. C'est pourquoi elle ne peut devenir une profession. Elle n'existe que par le concours des esprits. Si ces esprits font défaut, il n'y a plus de médiumnité. L'aptitude peut subsister, mais l'exercice en est annulé. Aussi, n'est-il pas un seul médium au monde qui puisse garantir l'obtention d'un phénomène spirit à un instant donné? Exploiter la médiumnité, c'est donc disposer d'une chose dont on n'est réellement pas maître. Affirmer le contraire, c'est tromper celui qui paie. Il y a plus. Ce n'est pas de soi-même qu'on dispose. Ce sont les esprits, les âmes des morts dont le concours est mis à prix. Cette pensée répugne instinctivement. C'est un trafic, dégénéré en abus, exploité par le charlatanisme, l'ignorance, la crédulité, la superstition, qui a motivé la défense de Moïse. Le spiritisme moderne, comprenant le côté sérieux de la chose par le discrédit qu'il a jeté sur cette exploitation, a élevé la médiumnité au rang de mission. Fermez les guillemets. La médiumnité gratuite, ouvrez les guillemets. Les médiums modernes, car les apôtres avaient aussi la médiumnité, ont également reçu de Dieu un don gratuit, celui d'être les interprètes des esprits, pour l'instruction des hommes, pour leur montrer la route du bien et les amener à la foi, et non pour leur vendre des paroles qui ne leur appartiennent pas, parce qu'elles ne sont pas le produit de leur conception, ni de leur recherche, ni de leur travail personnel. Dieu veut que la lumière arrive à tout le monde. Il ne veut pas que les plus pauvres en soient déshérités et puissent dire « Je n'ai la foi parce que je n'ai pas pu la payer. Je n'ai pas eu la consolation de recevoir les encouragements et les témoignages d'affection de ceux que je pleure parce que je suis pauvre. Voilà pourquoi la médiumnité n'est point un privilège et se trouve partout. La faire payer serait donc la détourner de son but providentiel. » Fermez les guillemets. Le ciel et l'enfer. En août 1865, la Genèse, les miracles et les prédictions, en 1868. L'Obsession, le livre compile des extraits de revues spirites, de 1858 à 1868. La Société parisienne des études spirites, en 1858, Kardec, fonde la première société spirite au monde sous le nom de Société parisienne des études spirites, dont le but exclusif est l'étude de tout ce qui peut contribuer au progrès de cette nouvelle science au travers de laquelle apparaît une spiritualité fondamentale. À cause de la répercussion considérable de son premier ouvrage spirit, Allan Kardec est considéré par nous comme le codificateur des messages et des lois divines révélées par l'au-delà, pour le présent comme pour le futur. Ceci est à préciser parce qu'on le qualifie souvent dans les médias de fondateur ou de pape du spiritisme, ce qui n'est tout simplement que de la désinformation ou de l'ignorance, parfois même de la malveillance. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'en était pas occupé avant lui. Rappelons à ce propos les phénomènes dits d'Eusville dans l'État de New York le 31 mars 1848, c'est-à-dire 9 ans avant la première parution du Livre des Esprits. Les phénomènes dits d'Eusville mettent en scène la famille Fox, notamment 2 de leurs filles, Catherine et Margaretha, respectivement âgées de 12 et 14 ans. Catherine se familiarisa très vite avec les bruits insolites et inexplicables qui se produisaient dans sa chambre et émanant des murs. Elle eut l'idée de dire au frappeur invisible, ouvrez les guillemets, fais comme moi, fermez les guillemets, et elle frappa de sa petite main un certain nombre de coups que l'être invisible répéta. Madame Fox, la mère des fillettes, lui dit, ouvrez les guillemets, compte jusqu'à 10, fermez les guillemets, et l'on entendit 10 coups. Ouvrez les guillemets, quel âge ont mes enfants? Fermez les guillemets. La réponse fut correcte. Elle posa cette question. Ouvrez les guillemets. Êtes-vous un homme, vous qui frappez? Fermez les guillemets. Aucune réponse ne vint. Mais à celle-ci, ouvrez les guillemets. Êtes-vous un esprit? Fermez les guillemets. Il fut répondu par des coups nets et rapides. Les expériences se suivirent, nombreuses et précises. Les curieux, attirés par ces phénomènes, ne se contentèrent plus de demandes et de réponses. L'un d'eux, Isaac Post, eut l'idée de réciter à haute voix les lettres de l'alphabet en priant l'esprit de vouloir bien frapper un coup sur celle qui composait les mots qu'il voulait faire comprendre. De ce jour, la télégraphie spirituelle prenait cours sous une forme rudimentaire. Ce procédé est celui qui sera appliqué aux célèbres tables tournantes, plus tard avec la planchette du Ouija, et de nos jours, par quelques imprudents ou esprits légers et irresponsables, avec le verre d'eau. Voilà, dans toute sa simplicité, le phénomène qui devait faire couler tant d'encre, soulever tant de polémiques, de controverses dans le monde. Nié par les savants officiels, cantonné dans la religion-science, raillé par la presse des deux mondes, mis à l'index des clergés et des religions monothéistes, suspect à la justice et cependant exploité par les charlatans sans vergogne. Le spiritisme, ce néologisme inventé par Allan Kardec, devait cependant faire son chemin et conquérir auprès des bonnes consciences ses lettres de noblesse. Signalons qu'en ce qui concerne les sœurs Fox, nous constatons que les phénomènes spirites ne se produisaient qu'en leur présence. Nous reconnaissons dès lors une faculté que l'on nomme depuis la médiumnité. Pour mieux vous informer, signalons aussi que l'esprit qui se manifestait déclina son identité sous le nom de Joseph Ryan, en déclarant avoir été colporteur durant sa vie terrestre. Il révéla qu'il avait été assassiné par son voisin, lequel l'enterra dans la cave de la maison où habitait la famille Fox. Or, on chercha en vain dans la cave. Mais quelques années plus tard, après le départ de la famille Fox, un pan de mur s'écroula, laissant apparaître un squelette. Le voisin arrêté avoua son crime. Cette arrestation qui se produisit aux États-Unis devint le centre d'une première mondiale du spiritisme. Aux USA aujourd'hui, il existe plusieurs centres Allan Kardec et une fédération nationale dont le siège se trouve à Miami, ainsi qu'à Porto Rico. Dès 1885, fut fondée l'American Society for Psychical Research qui manifesta un vif intérêt pour les médiums et les facultés leur permettant d'entrer en contact avec l'au-delà. En 1930, les passions soulevées par la médiumnité des sœurs Fox n'étaient pas encore apaisées, puisque sous l'influence d'un pasteur méthodiste, on brûla leur maison. Une nouvelle construction fut érigée à l'identique en 1950. Mais quoi qu'on puisse en dire, le spiritisme se manifesta d'une manière forte aux États-Unis et dans le monde, comme pour vérifier ces paroles de l'Écriture. Ouvrez les guillemets. Il a été caché aux sages, ce qui a été révélé aux enfants. Fermez les guillemets. C'est dans un monde, au-delà de notre continent européen, riche d'énergie vitale, d'expansion ardente, moins assujetti que la vieille Europe à l'esprit de routine et aux préjugés du passé, l'Amérique du Nord, que se sont produites les premières manifestations du spiritisme ou du spiritualisme moderne, si l'on traduit en anglais littéralement. Ce choix était profondément judicieux. La fibre Amérique était bien le milieu le plus propice à une œuvre de diffusion et de rénovation. Mais, d'un côté de l'Atlantique comme de l'autre, quoiqu'avec des intensités diverses, les phares du concept spirit ont été les mêmes. Sur les deux continents, l'étude du magnétisme et des fluides avait préparé beaucoup d'hommes à l'observation du monde invisible. L'engouement pour les tables valseuses stoppa une grande partie de ces phénomènes dès lors qu'il s'agissait d'un jeu. La phénoménologie spirit, ou partie expérimentale, intéressa des hommes de talent, des savants, dont les noms sont autant de garanties, d'honorabilité et de sincérité, qui osèrent parler tout haut de ces faits et les affirmer. Il fut une époque entre 1900 et 1920 où la recherche psychique fit l'objet d'importantes expériences auxquelles participèrent de très nombreuses personnalités scientifiques comme D'Arsonval, Curie, Richer, Langevin, Branly, De Gramont, Le Clancher, Cunéo, Vallée, le docteur Gelée, le docteur Gibier, Flammarion, le colonel de Rechasse. Des moules de paraffine furent pris de certaines matérialisations desquelles des moulages de plâtre furent tirés. Ces moulages de main furent soumis à l'identité judiciaire, qu'il déclara qu'il n'y avait pas d'explication rationnelle à la production de tels moulages présentant non seulement des empreintes digitales spécifiques humaines, mais également la forme particulière présentée par des muscles vivants au moment du moulage. Ces moulages sont de nos jours visibles à l'Institut Métapsychique International de Paris, reconnu d'utilité publique. Les personnalités, favorisées par une expérimentation aussi probante, firent des déclarations appelées « manifestes des 34 ». Elles déclarèrent, ouvrez les guillemets, « nous affirmons notre conviction que les phénomènes obtenus ne sont explicables ni par illusion ou hallucination individuelle ou collective, ni par supercherie quelconque ». Fermez les guillemets. Les expérimentateurs avaient, et nous citons toujours ces extraits du livre du docteur Gelée, « L'ectoplasme et la clairvoyance », un esprit critique très aiguisé, avec des méthodes de jugement différentes de par leur formation professionnelle et leur spécialité. Il y avait des professeurs de médecine et de droit, des membres de l'Académie des sciences et de l'Académie française des médecins, des écrivains, des ingénieurs, des commissaires de police. Il n'y avait en jeu aucun intérêt personnel. Ainsi furent abordés l'hypnotisme, la télépathie, la lévitation, les matérialisations, les apparitions, les apports, les dématérialisations et d'autres phénomènes spirites inhérents à la médiumnité, tels l'écriture automatique, l'incorporation, la voyance, la clairvoyance, la bilocation, la transfiguration, les prophéties, la télékinésie, la rétrocognition, la cognition, la médiumnité polyglotte. À l'étranger, des savants de renom se penchèrent également sur ces phénomènes. En Allemagne, l'astronome Zöllner. En Angleterre, William Barrett, Olivier Lodge, Mayer, Crock. En Italie, Ernest Bozzano, Lombroso, le professeur Santi Liquido. En Russie, Aksakov, qui produisit un livre remarquable, Animisme et spiritisme, véritable rapport scientifique sur cette phénoménologie. Des écrivains comme Balzac, Victor Hugo, Georges Sand, Eugène Sue, Théophile Gautier, Michelet, le père Lacordaire, Victorien Sardou apportèrent leur contribution au spiritisme. Si nous parlons de phénoménologie, il y a dans l'Église autant de phénomènes similaires à ceux produits par des médiums dignes de ce nom. Cependant, il apparaît que la lumière a été mise sous le boisseau. Avec la diminution, voire la rareté de ces phénomènes de nos jours, il n'est plus question dans le public, même spécialisé, d'expérimentation aussi magistrale. Le monde savant, en général, a toujours horreur de la tendance soi-disant mystique, et au nom de la séparation des différentes branches du savoir, on méprise ceux qui seraient tentés de mêler la spiritualité à la science. Le père Lacordaire écrivait le 20 juin 1853, ouvrez les guillemets. Peut-être aussi, par cette divulgation du spiritisme, Dieu veut-il proportionner le développement des forces spirituelles au développement des forces matérielles, afin que l'homme n'oublie pas, en présence des merveilles de la mécanique, qu'il y a deux mondes, inclus l'un dans l'autre, le monde des corps et le monde des esprits. Fermez les guillemets. Un autre prêtre catholique, l'abbé Maronzeau, écrivait à Allan Kardec. Ouvrez les guillemets. Montrez à l'homme qu'il est immortel. Rien ne peut mieux vous seconder dans cette noble tâche que la constatation des esprits d'outre-tombe et de leurs manifestations. Par là, seulement vous viendrez en aide à la religion et en combattant à ses côtés les combats de Dieu. Fermez les guillemets. Christianisme et spiritisme de Léon Denis. Quant à l'abbé Le Canu dans son livre « Histoire de Satan », il apprécie en ces termes le rôle moral du spiritisme, ouvrez les guillemets. En suivant à la lettre les maximes du livre des esprits d'Allan Kardec, il y a de quoi devenir un saint sur la terre, fermez les guillemets. Si nous considérons les phénomènes décrits dans la Bible, nous les retrouvons dans l'expérimentation spirite. Or, sur ce plan, nous avons beaucoup insisté sur la défense de Moïse contenue dans le Deutéronome, au chapitre 19, versets 9 à 14. C'est en s'inspirant de ces défenses que certains théologiens ont également condamné dans le passé la pratique saine et sainte du spiritisme. Mais ce que Moïse condamne, avec juste raison, ce sont les nécromanciens, les magiciens, les devins, les augures, en un mot, ce qui constitue la magie. C'est aussi ce que condamne formellement le spiritisme. En effet, le spiritisme détermine par deux mots très significatifs ce qu'il est et ce qu'il n'est pas dans ses rapports avec le monde spirituel. Le spiritisme n'évoque pas à la manière des nécromanciens. Il invoque. Ces deux mots ont la même racine, mais ils ne sont pas pour autant synonymes. Dans l'évocation, l'être auquel on s'adresse sort du lieu où il est, pour venir à vous et manifester sa présence. Par contre, invoquer signifie appeler en soi ou à son secours une puissance supérieure. On invoque Dieu dans la pensée. La prière est une invocation. Dans l'invocation, l'être auquel on s'adresse vous entend. Le 22e chapitre du 2e livre des Rois parle de l'évocation de l'ombre de Samuel par la pythonisse. On le voit, les défenses de Moïse ne pouvaient s'appliquer au commerce des hommes avec les esprits, puisque Moïse ne devait rien dire de la survivance. Elle n'avait qu'un but, préserver les Hébreux des pratiques idolâtres des peuples voisins et l'erreur des évocations. Malgré ces prohibitions, les phénomènes spirites abondent dans la Bible. Et je m'arrête là pour cette lecture, la suite dans la prochaine émission où nous parlerons des photos Kirlian, de Gabriel Delanne, d'Ernest Bozzano, de Saint-Hildegard de Bingen, du Père Brune et bien évidemment d'Allan Kardec que Roger Pérez met au centre de cet écrit.
Les œuvres de base du spiritisme. Le Livre des Esprits en 1857. Il reprend plus de 1000 questions posées aux esprits sur le monde spirituel, sur la création, sur le bien et le mal, sur la réincarnation, sur les peines et le bonheur futur. Les esprits supérieurs y répondent de manière intelligible. Le livre de médium 1861. Étude sur l'action des esprits, sur les moyens de communiquer avec le monde spirituel, ainsi que sur les difficultés et les risques de cette pratique. L'Évangile selon le spiritisme en 1864. Étude pratique et actualisée du message du Christ, livre riche d'enseignements d'une portée remarquable. Le ciel et l'enfer en 1865. Étude remplie de témoignages touchants sur la vie après la mort et les conditions de vie dans l'au-delà. Les concepts de paradis et d'enfer y sont actualisés en se basant sur l'observation et la logique. La Genèse selon le spiritisme en 1868. Étude critique sur la création du monde, les fluides, les miracles et les prédictions de la Bible. Nous vous proposons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, Savoir souffrir.
Beaucoup de gens, parmi les gens qui n'ont pas de religion ou qui ont eu une religion et qui l'ont laissée tomber, disent « si Dieu était juste, il ne ferait pas ça ». On a par exemple l'exemple des enfants handicapés. On se dit « mais si Dieu est bon, si Dieu est juste, pourquoi est-ce que cette personne naît dans la souffrance, dans l'incapacité de pouvoir se développer, de développer plein de choses, de faire du bien sur terre. On peut dire la même chose par rapport aux injustices qui ne sont pas punies. On voit constamment des gens mauvais, qui sont riches, bien, heureux selon la vision du monde, même si on se trompe évidemment, et on se dit c'est pas juste, et on voit à côté des gens qui sont vraiment bons, qui sont des gens qui font du bien autour d'eux, etc., et qui souffrent, qui tombent malades, qui ont des proches, qui ont des problèmes, etc. Et on se dit, si Dieu était juste, il ne ferait pas ça. C'est pour ça que j'ai abandonné la religion, c'est pour ça que je ne crois pas en Dieu, etc., etc. Donc on va aujourd'hui parler du sens de la souffrance et de ce que les esprits ont expliqué sur cet apparent non-sens de se dire, si Dieu est juste, pourquoi quelqu'un qui naît en Europe a plein d'aide, plein de soutien, etc., aura des bonnes écoles, aura des choses comme ça et tout, et quelqu'un qui naît dans certaines régions du monde, dans l'Afrique, dans l'Asie, etc., aura, s'il a de la chance, l'école jusqu'à 6 ans, une vie qui est probablement difficile, et pour avoir une demi-chance d'avoir la même chose que nous, il devra risquer sa vie, et il mourra peut-être en essayant de traverser la mer pour rejoindre un pays plus heureux, entre guillemets. Pourquoi tout ça ? Si Dieu était juste, il ne permettrait pas tant d'inégalités. On va parler du coup de la souffrance. On a tous de la souffrance, même si, comme j'en ai parlé ici, on peut se dire, ouais, on n'est pas si mal quand même. Même si on est malade, si on a des difficultés dans notre corps, si on a des difficultés dans notre vie familiale, des difficultés avec nous-mêmes, on peut se dire, oui, finalement, il y en a peut-être qui souffrent plus. Mais pourquoi cette souffrance? Si Dieu est bon, si Dieu est juste, pourquoi est-ce que cela existe? Il faut se porter dans une vision plus large. Imaginez un patron d'esclaves. Ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que c'est toujours l'exemple que je donne. Un patron d'esclaves. On est il y a 500 ans, aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. On a un patron, un maître d'esclaves. Il possède des personnes. Ses voisins font la même chose. À l'église, on dit que c'est bien. Pour lui, c'est normal. Il les maltraite parce qu'il y a toute une série d'histoires. Oui, si tu ne les maltraites pas, ils vont se révolter, etc. Donc, ses esclaves meurent, sont malades, n'ont pas assez à manger, etc., etc. De notre point de vue, cette personne est mauvaise. De son point de vue à lui-même, ça va. Il n'a rien fait de mal. Je pense qu'il le sait, que c'est pas bien, mais il essaye de se dire que ça va. Qu'est-ce qui se passe quand il décède? Parce que c'est sur Terre qu'il était riche propriétaire terrien. C'est sur Terre qu'il avait des gardes et des contremaîtres qui s'occupaient de maintenir la discipline avec les esclaves. C'est sur Terre que la loi de son peuple lui permettait et il défendait son statut. Une fois décédé, il perd tout ça. Et qui est-ce qui l'attend de l'autre côté? Certaines des personnes qui sont mortes et qui ont souffert à cause de lui. Qui se disaient « ce n'est pas juste. Pourquoi je suis l'esclave et lui le maître ?» Certaines des personnes qui ont perdu leurs proches, leur enfant par manque de soins, leur femme, etc. Et ils sont là, et le maître des esclaves arrive. Et le maître d'esclaves va passer un mauvais moment. Il va souffrir. On est tous en train de dire « ouais, il l'a bien mérité ». Déjà, ce n'est pas forcément à nous de juger, mais effectivement, c'est son mérite qu'il passe par la souffrance. Et c'est tout à fait logique. Certains de ses esclaves lui ont pardonné et ont essayé d'aller plus loin, mais ils ont tellement souffert qu'il y en a pas mal qui lui en veuillent. Il faut s'imaginer arriver dans un endroit avec 100, 200 personnes, même 50, à qui vous avez fait autant de mal. Même si c'est le monde spirituel et qu'il n'a pas de corps, il va vraiment passer un mauvais moment et un long mauvais moment. Et le maître d'esclaves se révolte. Se dit « Ah, mais on m'avait dit que c'était bien, à l'église on m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème, etc. Dieu est injuste. » Et les esprits supérieurs qui l'accueillent lui disent « Non, tu étais chrétien, tu as entendu des mots comme « fais aux autres ce qu'on voudrait qu'on te fasse, pardonne, tous les hommes sont égaux, tu as décidé de ne pas écouter. Premièrement, tu as choisi. Même si le prêtre que tu as écouté a fait des erreurs et en souffrira aussi, ta souffrance, tu l'as choisie. Tu as choisi de la voir. » Mais entre le moment où le maître d'esclaves se dit « ouais, c'est vrai, bon, je savais que je ne devais pas vraiment, mais bon, tout le monde le fait. » Entre cette semi-admission de culpabilité et que ça soit ancré dans son cœur pour l'éternité, qu'on ne peut pas faire ça aux autres, qu'on ne traite pas les autres comme des animaux, qu'on ne peut pas tuer les autres ou s'en servir comme des esclaves. Il faut que ça s'inscrive au plus profond de son cœur, au plus profond de son inconscient. Et pour ça, il va devoir passer par une situation particulière. Il va réincarner en tant qu'esclave. Il va renaître, après avoir déjà passé un mauvais quart d'heure, peut-être quelques dizaines, quelques siècles de l'autre côté, avec ses anciens esclaves, il va renaître en tant lui-même qu'esclave. Et il va vivre cette souffrance. On pourrait dire une punition. On pourrait dire aussi qu'il l'a bien mérité. Ce n'est pas une punition. Ça, c'est très intéressant. Ni le moment qu'il a passé de l'autre côté, ni cette incarnation en tant qu'esclave ne sont des punitions. C'est la conséquence logique de ce qu'il a fait. Ici sur Terre, si on n'est pas sympa avec les autres, on finit tout seul. Quand vous allez dans les maisons de repos, il y a plein de gens qui sont tout seuls. Certains n'ont rien fait dans cette vie pour le mériter. Mais il y en a plein, quand vous passez 2 heures avec eux, vous vous rendez compte que « Ah, je comprends pourquoi personne ne vient le voir. » Pour ceux qui travaillent dans les maisons de repos, et ils savent ce que c'est. Ou avec les personnes âgées. Quand on est méchant avec les autres, la conséquence, c'est qu'on est tout seul. On crée son propre malheur. Et c'est la même chose avec les vies suivantes. Donc celui qui a eu des esclaves va devenir esclave. Pourquoi ? Pour qu'ils comprennent. Parce que c'est facile de dire « Ah oui, non, c'est pas bien, j'ai pas fait ça. Bon, mais les autres, ils faisaient ça aussi. Tout le monde faisait ça, c'est normal. » Et que ce soit inscrit au fond de son cœur, profondément, marqué au fer rouge, si vous me permettez cette métaphore pas terrible, ça fait mal. Être esclave, c'est horrible. Ça blesse profondément. C'est inacceptable. Pour que ce soit marqué dans son cœur, il faut qu'il passe par là, dans 90-95% des cas. Et donc il va passer un bout de vie comme esclave, une vie entière comme esclave, plusieurs vies comme esclave. Ça dépendra de lui. Ça dépendra du moment où ce sera profondément inscrit dans son cœur. Ça ne se fait pas. Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe, quelque chose de merveilleux. Se dit, ça ne se fait pas, à partir de maintenant, je vais utiliser toutes mes forces pour que ça n'arrive à personne. Et tous ceux qui ont risqué leur vie, qui se sont donnés à fond pour abolir l'esclavage dans tous les pays du monde, et qui se donnent encore à fond aujourd'hui parce que l'esclavage n'a pas complètement disparu, ont, dans 99% des cas de nouveau, était maître d'esclaves dans le passé. Ce passage par l'esclavage n'était pas une punition. C'est une méthode pédagogique pour l'aider à grandir, pour l'aider à être heureux, parce que en étant maître d'esclaves, finalement, on crée son propre malheur, on crée sa propre tristesse du futur, et pour l'aider à réparer le mal qu'il a fait. Parce que les 100 esclaves qui lui en veuillent encore, certains sont bloqués dans cette vengeance, restent autour du gars à l'obséder, à l'embêter, etc. Et ils vont le lâcher qu'à partir du moment où ils se disent « Ok, maintenant c'est quelqu'un de bien. Ok, il a réparé le mal qu'il a fait. » Parce que si Dieu est juste, chaque centime que l'on vole, chaque larme que l'on fait couler en faisant souffrir à quelqu'un d'autre, on va devoir la payer, la rembourser, tout simplement. Si c'est juste, c'est comme ça. Si on a volé, on doit rendre. Bien sûr, de manière flexible. On ne va pas juger de la même manière l'enfant de bourgeois qui a tout ce qu'il lui faut et qui se lance dans le banditisme que celui qui est né dans les pires quartiers du monde et dans les régions les plus violentes et moins bien fréquentées. Ils n'ont pas fait le même mal, même s'ils ont braqué la même banque. Ils n'ont pas fait le même mal parce qu'ils avaient des conditions différentes. Et donc, pour que la personne veuille volontairement rembourser chaque centime qu'elle a volé, elle devra passer par certaines expériences. Et le nombre de ces expériences dépend uniquement de la vitesse à laquelle il va comprendre. Du coup, Jésus a dit, et dans beaucoup de philosophies, on a ça, dans beaucoup de religions, on a ça, bienheureux ceux qui souffrent. Dans le sens où la souffrance, enfin, l'idée que la souffrance, c'est bien. Alors, est-ce que la souffrance, c'est bien ? C'est compliqué. La réponse n'est pas toute blanche, toute noire. Beaucoup de religions ont fait l'erreur de dire « la souffrance, c'est bien ». Au Moyen-Âge, vous aviez des rois et des prêtres qui prenaient des objets de torture et qui, parce qu'ils pensaient avoir une mauvaise pensée ou un mauvais truc, se détruisaient le corps, quoi. Ça faisait une douleur incroyable. Bouddha, le prince Siddhartha, avant qu'il soit Bouddha, parcourait en Inde, essayait de trouver des choses pour s'illuminer spirituellement, et on lui disait « Oui, pour t'illuminer, tu dois te faire du mal. Donc il y avait des gens qui mangeaient pas, qui se mettaient dans des bains de boue remplis de moustiques, enfin, qui se causaient eux-mêmes des souffrances terribles pour se détacher du corps physique. Bouddha disait, ouais, c'est pas terrible comme technique. Il a essayé pendant longtemps et puis s'est dit, non, ça marche pas terrible. Mais donc beaucoup de gens ont mal compris le sens positif des souffrances et sont arrivés à des conclusions erronées. Première conclusion erronée, la souffrance, souffrir en soi, c'est bien. Non. Souffrir est un moyen. Souffrir, la souffrance est une méthode pédagogique. Pour les enfants, par exemple, aller à l'école est pour beaucoup une souffrance. Pour nous, les adultes, on sait, ouais, ok, c'est pas très gai, aller chez le dentiste et se brosser les dents et tout ça, manger des légumes, c'est pas très gai non plus, mais tu vas le faire parce que c'est bien pour toi. C'est plus ou moins le même principe, mais avec des choses qui nous sont supérieures. Du coup, s'imposer une souffrance, juste comme ça, allez, je me fouette et puis Dieu m'aime bien, bon, je me moque un petit peu, non, c'est inutile. Surtout que, bah, après, évidemment, le corps, il fonctionne moins bien. Du coup, comme le corps, il fonctionne moins bien, ben, on sait moins faire de choses utiles dans nos vies. Et du coup, ben, c'est pire qu'inutile. Ça nous cause du tort, quoi. Donc, s'imposer une souffrance n'a pas de sens en soi. Par contre, se priver ou s'imposer une souffrance pour aider quelqu'un d'autre, je prends un truc tout bête, mais se priver d'une soirée avec des amis ou d'un bon moment un dimanche pour aller voir un proche à l'hôpital, dans la maison de repos, ou des trucs comme ça. Toute petite souffrance, hein, on est d'accord. Oui, ça, c'est bien. À ce moment-là, oui, souffrir, entre guillemets, c'est bien. Si on s'impose une difficulté, une souffrance pour faire le bien, ça marche. Deuxième phrase qui était erronée, c'est « Ah, il faut accepter la souffrance. C'est la volonté de Dieu, les desseins de Dieu sont à... Il faut juste accepter la souffrance. Il t'arrive un truc, Dieu l'a décidé, Inch'Allah, peu importe les religions, tu souffres, voilà, c'est comme ça. Il faut accepter. » Oui, mais non. Toute cette idée pédagogique de la souffrance marche que si on fait quelque chose pour s'en sortir. Que si on lutte, qu'on se transforme, etc. Si on est, par exemple, on a parlé de handicap plutôt, si on est avec un problème neurologique, les gens qui naissent dyslexiques, hyperactifs, ou d'autres petits problèmes neurologiques, etc., qui vont rendre certaines choses de leur vie très difficiles. Pourquoi ? Est-ce qu'ils doivent dire « Ah, ben voilà, c'est comme ça, je suis hyperactif, je ne sais pas me calmer, ben voilà, ma vie n'est pas cool, je ne sais pas faire des études, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. » Non. On est né avec ça, comme celui qui est né avec l'esclavage. On est né pour apprendre, pour grandir, pour se transformer. Et oui, on va devoir accepter une partie. Il y a une partie de nos souffrances qu'on doit accepter. Si demain, j'apprends que j'ai un cancer, je ne peux pas ne pas l'accepter. Il y a des gens, on voit beaucoup, vous avez peut-être vu ça autour de vous, des gens qui se révoltent, qui passent par vraiment une étape très douloureuse avant d'arriver à l'acceptation. C'est la colère, c'est le déni, c'est le Bob Marley qui disait à ses proches « Mais tu t'es fou, pourquoi tu veux que j'aille à l'hôpital ? Si je vais à l'hôpital, ils vont dire que je suis malade. Tu veux que je sois malade ?» Qui avait un cancer à un stade avancé et qui s'est révolté par rapport à ce cancer. Il y a une partie qu'on doit accepter. Mais on va aller chez le médecin, on va faire tous les soins, aller voir toutes les choses possibles pour se guérir. Mais il y a une partie d'entre nous qui dit « Ok, bah, j'ai le cancer, je vais peut-être mourir, je vais peut-être me préparer à mourir, je vais peut-être pas pouvoir aller travailler, je vais peut-être perdre mes cheveux, etc. etc. » Plus vite on accepte cette souffrance, moins douloureuse elle est, moins grave elle est. Mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter de lutter. C'est pas parce qu'on est esclave qu'on va dire ben oui, ben je suis esclave, c'est bien. Il y a une partie qu'on devra accepter pendant un temps et puis il y a une partie de lutte. Ta troisième phrase finalement, est-ce que souffrir ça permet d'être meilleur? Est-ce que juste souffrir c'est assez? Vous commencez à le comprendre. La souffrance nous aide à grandir, nous aide à évoluer. La souffrance est souvent, dans la grande majorité des cas, encore nécessaire à notre niveau. Tout comme en tant que parent, c'est nécessaire qu'on oblige nos enfants d'aller à l'école. Si on leur dit « tu vas à l'école si tu veux, tu vas pas à l'école si tu veux pas », il y aura trois pelés à l'école. Et la société ne sera pas dans un état terrible. Donc oui, on a une part de souffrance dans toutes nos vies. Mais souffrir, juste souffrir n'est pas assez. Parce que si on fait juste que dire « ok, je suis esclave, machin », on peut passer plusieurs incarnations en tant qu'esclave. Et c'est pas cool du tout. Je prends un exemple très dur, mais c'est la même chose avec nos petites souffrances. C'est vivre avec, c'est apprendre à l'accepter. Parce que si on se révolte, on perd une partie de cette souffrance. Se révolter et lutter n'est pas la même chose. Mais c'est en s'en sortant, c'est en faisant tout le nécessaire pour s'en sortir, que va arriver l'apprentissage. C'est en la rendant utile. Tout comme celui qui a été esclave se met à lutter pour l'esclavage, pour abolir l'esclavage de tous les autres. C'est utiliser notre souffrance pour faire le bien autour. Il y a vraiment une bonne manière de souffrir et une mauvaise manière de souffrir. Ça peut être la révolte, ça peut être la plainte. Je ne sais pas si vous avez des proches qui ont des difficultés, qu'on reconnaît, et effectivement, ils sont dans des souffrances, mais qui font que ces difficultés deviennent un enfer pour leur entourage. Deviennent une torture pour tous les gens qui les entourent, y compris eux-mêmes. Et il y a bien souffrir, accepter la part qu'on ne peut pas changer, faire tout le nécessaire, s'en servir pour grandir, pour être conscient des souffrances des autres, aider les autres qui ont les mêmes difficultés, et surtout se demander « qu'est-ce que j'ai à apprendre ?» Parce qu'on prend la souffrance comme étant un truc qui nous tombe sur la tête, alors que apprendre à vivre nos souffrances et à grandir avec nos souffrances, c'est tout simplement le chemin du bonheur. Ici sur Terre, on a de la souffrance. On ne peut pas y échapper. N'importe lequel d'entre nous, il y a différents niveaux, il y a différents trucs, on ne peut pas échapper à notre souffrance. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai telle souffrance? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive pas? Si j'ai mal de tête aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour causer de cette souffrance? Ah, j'ai passé 7 heures sur mon tel. Bon, la solution du bonheur est assez simple à ce moment-là, même si elle n'est pas forcément facile à mettre en place pour ceux qui ont des difficultés avec ça. Du coup, je vais terminer par une petite réflexion, un peu pour chacun réfléchir, se dire, tiens, quelle souffrance chacun de nous a? Quelles angoisses? Quelles maladies? Quel handicap? Qu'est-ce qui est insupportable pour nous chez les autres? Surtout ces souffrances qui se répètent. Par exemple, celui qui est dans une entreprise, le patron est insupportable, maltraitant, etc. Abandonne ce boulot, va dans un autre boulot, patron insupportable, abandonne, va dans un autre boulot, patron insupportable. Partout où il va, le destin semble lui imposer telle situation, tel problème. Tel conjoint, tel truc. Qu'est-ce qu'on a à apprendre là? Comment est-ce que je peux grandir pour me transformer, même si peut-être que le cancer que j'ai, bon, j'ai pas de cancer, je vous rassure, peut-être que, imaginons si j'ai un cancer, peut-être que ce cancer va me tuer, même je suis éternel, je continue à vivre. Et qu'est-ce que j'ai à apprendre avec ça? Comment je peux grandir et faire du bien avec ça? La souffrance, c'est quelque chose de bien. Pas en soi, pas agréable, on est complètement d'accord. C'est quelque chose de bien parce que c'est quelque chose qui nous montre la voie du bonheur. Elle met le bonheur à portée de notre main. Mais, c'est à nous de décider si, avec l'aide de la souffrance, qui n'est pas agréable, on tend la main et on va pour saisir et pour garder dans nos mains le bonheur.
Le spiritisme, quels sont ses principes de base? Survivance de la conscience, notre conscience vivait avant et continuera de vivre après la mort du corps physique. dans le monde spirituel, nous conservons notre individualité. La réincarnation. Nous avons plusieurs vies successives qui nous permettent d'évoluer et réparer les erreurs que nous aurions pu commettre par le passé. La loi de cause à effet. Ce principe hérité des sciences positives est aussi appliqué à la vie morale. Toute action, bonne ou mauvaise, entraîne une réaction. Libre arbitre et responsabilité. Le spiritisme ne contient ni obligation ni interdit. Il explique simplement les conséquences, bonnes ou mauvaises, de nos actions accomplies en vertu de notre libre arbitre. Évolution. La philosophie spirite explique que, par nos différentes existences, nous pouvons évoluer et devenir meilleurs. Médiumnité. Le spiritisme perçoit la faculté de communiquer avec le monde spirituel comme naturelle et présente chez tous les êtres humains à différents degrés. L'inspiration et l'intuition sont des formes de médiumnité. Maintenant, la réforme intime, à partir de l'œuvre d'André Luiz, en dupliquant les comportements et enseignements des esprits dans notre vie quotidienne. Pour nos solars, le terme de réforme porte sur comment, en s'inspirant de l'aura, traverser au mieux, en tant que mère, les périodes douloureuses. La prière finale s'inspirera de la question 399 du Livre des Esprits.
Nous allons, en ouvrant nos solars, nous offrir la possibilité de quitter la terre de nos pensées habituelles pour écouter les conseils du monde spirituel. Cela nous donnera l'occasion de recevoir des approfondissements, un accompagnement par des exemples concrets qui pourront nourrir notre foi, la faire croître et la rendre de plus en plus raisonnée et solide. Nous continuons dans cette émission les portraits de mères dans nos solars que nous avions commencé à l'émission précédente. Et aujourd'hui, tout notre intérêt va se porter sur l'aura. Dans un contexte très précis, elle est à la veille de sa réincarnation sur Terre et elle doute. Elle se pose beaucoup de questions. Et son témoignage va nous inspirer quand nous-mêmes, en tant que mère de famille, nous doutons, nous nous posons des questions, nous remettons tout en question. Nous commençons à découvrir le portrait de Laura dès le chapitre 17 qui s'intitule « Chez Lysias ». Et justement, Laura est la mère spirituelle de Lysias, Yolande et Judith qui vivent avec elle dans sa maison à Nos Solars et de Thérèse qui est encore incarnée pour quelques jours sur la terre. Quand André fait sa connaissance, il vient juste de terminer son traitement spirituel. Et désormais, il va observer et apprendre. Il nous dit d'ailleurs à ce moment-là, ouvrez les guillemets, c'est le début d'une nouvelle vie. Et il voit en Lysias, qui est visiteur des services de santé et qui a coopéré au traitement d'André, ouvrez les guillemets, je regardais Lysias comme un frère avec qui partageait ma joie inexprimable en cet instant. Fermez les guillemets. Et justement Lysias, quand il apprend qu'André a besoin d'un logement, va dire ceci aux équipes de Nos Solars. Ouvrez les guillemets. Lysias lui coupa la parole. « Si c'est possible, s'exclama-t-il, j'apprécierai l'accueillir dans notre maison tant que durera sa période d'observation. Ma mère l'y traitera comme un fils. » Fermez les guillemets. Nous voyons dans cette simple conversation une belle application concrète des enseignements du Christ. André qui voit Lysias comme un frère. Lysias qui voit aussi André comme un frère. De cette pensée, Lysias fait un acte en accueillant André chez lui. Et au-delà d'un toit, André bénéficiera d'une nouvelle maman qui va prendre soin de lui. Cet accueil, cette hospitalité est une très belle illustration de tous enfants du Seigneur, de tous, frères et sœurs. Et même si Laura est un esprit, peut-être que beaucoup d'entre nous se reconnaîtront dans son parcours et tireront profit de ce qu'elle nous dit, de ce qu'elle nous montre, comment elle agit. Regardons ensemble le quotidien de Laura. Elle a trois grands à la maison, Lysias, Yolande, Judith et une petite quatrième, Thérèse, toujours sur terre, qui est en train de mourir d'une pneumonie et qui va arriver dans quelques jours à Nos Solars. Le timing est serré car dès que Thérèse va arriver à Nos Solars, Laura va partir se réincarner sur terre. Son mari spirituel, Richard, est absent de la maison depuis 3 ans puisqu'il s'est réincarné. Nous le découvrons dans le chapitre 48 « Culte en famille » où par l'intermédiaire d'une machine, il peut, pendant son sommeil d'enfant, venir retrouver les siens à Nos Solars. Laura veille aussi sur Héloïse, sa petite fille. Nous apprenons dans le chapitre 18, ouvrez les guillemets, « Nous hébergeons dans cette maison ma petite fille, qui est en convalescence des suites de son retour de la terre, il y a quelques jours. Ma petite fille est demeurée au seuil pendant 15 jours, dans une profonde somnolence, pendant que nous veillons sur elle. Elle devrait être dans les pavillons hospitaliers, mais j'ai obtenu la permission d'en prendre soin moi-même. » Fermez les guillemets. Sa petite fille s'est désincarnée après 8 mois d'une pénible tuberculose qu'elle a transmise à sa mère Thérèse. Elle a aussi une éducation religieuse déficiente, nous dit Laura, et c'est cela aussi que Laura va soigner. Héloïse a aussi le cœur brisé, car elle a laissé son fiancé sur terre qu'elle croit éplorer, et elle va apprendre qu'une collègue de travail, Maria Dalouse, qui lui apportait des fleurs chaque dimanche, s'est rapprochée de son fiancé au point d'en devenir une nouvelle épouse. Et elle va devoir accepter, comprendre, se détacher de sa colère, transformer ses émotions. C'est à tout ce travail que Laura s'attelle au quotidien. Elle a également un emploi. Dans le chapitre 20, nous apprenons que le ministère de l'assistance lui confie la garde d'enfants dont elle prend soin chez elle. Et quand il n'y a pas d'enfants sur qui veiller, elle honore des travaux hospitaliers. Donc une vie très active à côté de sa vie de famille, d'assistante maternelle et d'aide-soignante. Toutes ces infos font qu'il y a mille et une façons de se reconnaître dans ce portrait de mère. La mère, sans mari, qui prend soin de ses 3 enfants adultes qu'elle continue de guider et d'accueillir chez elle. La mère, qui prend soin de ses petits-enfants, malades, qui ont besoin de son soutien, de son enseignement. La mère, qui a un proche qui est en train de mourir. La mère, qui a une vie active. Et la mère qui vit un moment clé. Elle est proche de se réincarner et elle est parcourue de doutes. Elle les partage au chapitre 47 au ministre Clarencio. Ouvrez les guillemets. J'ai sollicité le secours spirituel de vous tous, mes compagnons, afin de demeurer vigilante à l'égard des leçons que j'ai apprises ici. Je sais bien que la terre est emplie de la grandeur divine. Je dois me rappeler que notre soleil est le même que celui qui alimente les humains. Cela dit, mon cher ministre, je crains cet oubli temporaire dans lequel je serai précipité. Je me sens comme un malade qui a guéri de nombreuses blessures. En vérité, les ulcères ne me font plus souffrir, mais j'en conserve les cicatrices. Il suffirait d'une égratignure pour que je retombe malade. Fermez les guillemets. Elle évoque aussi 2 craintes. Le fait de ne plus disposer, comme à Nos Solars, d'être plus élevé qu'elle, qui l'a conseillée, qui l'a baignée de bonnes énergies, quand elle replongeait dans des mauvaises habitudes du passé, et également, sur Terre, d'être entouré de violence et d'agressivité, très loin des énergies fraternelles de nos solars. Voici ce qu'elle nous dit au chapitre 47. Ouvrez les guillemets. Nous pouvons compter sur les vibrations spirituelles de la majorité des habitants, qui sont presque tous éduqués en ce qui concerne les lueurs de l'évangile rédempteur. Et bien que les vieux échecs remontent à la surface de nos pensées, nous trouvons des moyens de défense naturelle dans notre milieu. Sur la terre, par contre, notre bonne intention est comme une lumière vacillante dans une immense mer de forces agressives. Fermez les guillemets. Là aussi, nous pouvons nous identifier car nous avons reçu un enseignement spirit. Nous pratiquons le spiritisme, les enseignements de Jésus. Et des fois, nous aussi, nous doutons sur notre capacité de pouvoir progresser, de pouvoir transformer nos émotions, de ne pas retomber malade spirituellement en se laissant aller à des traits de caractère, de comportement qui sont néfastes pour nous et pour ceux qui nous entourent. Alors si nous traversons une période aujourd'hui où nous doutons que nous allons y arriver, où nous nous décourageons, écoutons tous les arguments qui sont donnés à l'aura et qui s'appliquent parfaitement à notre incarnation. Ouvrez les guillemets. J'espère cependant que vous êtes motivés pour la lutte. C'est un honneur de retourner dans le monde terrestre dans votre situation. Des milliers d'heures de service à votre crédit envers une communauté de plus d'un million de compagnons. En outre, vos enfants sont derrière vous pour vous appuyer. Fermez les guillemets. Qu'est-ce que nous pouvons recueillir de ces éléments qui pourraient nous faire du bien ? D'abord les mots motivés et lutte, qui confirment que se transformer, s'élever pendant son incarnation, c'est comme mener une guerre en soi contre ses anciens penchants qui ne font ni du bien aux autres, ni du bien à nous-mêmes, et qu'il faut garder une motivation à s'en souvenir. C'est difficile parce qu'il y a du travail à effectuer. L'autre point, c'est qu'il y a beaucoup d'esprits en attente de réincarnation et peu de corps disponibles. Donc là, nous avons bénéficié d'une incarnation. Profitons-en. Également, que nous avons dû accumuler des heures de service, nous avons dû aider des compagnons, même si nos crédits sont moins conséquents que ceux de l'aura, nous en avons. Et ils permettront d'obtenir du soutien, de l'aide, des moyens. Le dernier point qu'évoque l'esprit, c'est notre famille spirituelle qui est dans l'au-delà et qui nous soutient, même si nous ne la voyons pas. Et n'oublions pas toute cette communauté d'esprits qui nous soutient, d'esprits souffrants, que nous aidons quand nous leur dédions des prières ou quand nous participons à des groupes d'aide médiumnique. Le ministre Genesio apporte aussi à l'aura d'autres éléments. Écoutons-le. Ouvrez les guillemets. Ne vous laissez pas emporter dans les conjectures. Il faut avoir confiance en la protection divine et en nous-mêmes. La source de la providence est inépuisable. Il faut briser les lunettes sombres qui nous font voir les paysages physiques comme un exil amer. Ne pensez pas aux possibilités d'échec, mais mentalisez plutôt les probabilités de réussite. Par-dessus tout, il faut avoir confiance en nous, vos amis, qui ne seront pas très loin en termes de distance vibratoire. Pensez à la joie d'aider de vieilles affections, à l'honneur d'être utile. Fermez les guillemets. Ce texte suffit à lui-même et je vais le relire en changeant les pronoms pour pouvoir faire que nous en bénéficions. Ne te laisse pas emporter dans des conjectures. Il faut avoir confiance en la protection divine et en toi-même. La source de la providence est inépuisable. Il faut briser les lunettes sombres qui te font voir le paysage physique comme un exil amer. Ne pense pas aux possibilités d'échec, mais mentalise plutôt les probabilités de réussite. Par-dessus tout, il faut avoir confiance en nous, tes amis, qui ne seront pas très loin en termes de distance vibratoire. Pense à la joie d'aider de vieilles affections, à l'honneur immense d'être utile. Le ministre va conclure en rappelant que ce qui est le plus dangereux peut-être, le plus noir à notre évolution, c'est l'égoïsme qui peut prendre mille et une formes en nous. Voici ce qu'il dit, ouvrez les guillemets. « Je n'ignore pas ce que représentent les noirceurs du champ inférieur, mais il est indispensable de faire preuve de courage et d'aller de l'avant. Nous t'aiderons à travailler davantage pour le bien des autres que pour ta satisfaction personnelle. Le grand péril, encore et toujours, consiste à demeurer dans les tentations complexes de l'égoïsme. » Fermez les guillemets. Et un peu plus loin, ouvrez les guillemets. « N'accorde pas tant d'importance aux influences des zones inférieures. Tu donnerais des armes à l'ennemi pour qu'il te torture. Le domaine des idées est aussi un domaine de lutte. Toute lumière que nous allumerons sur la terre y demeurera pour toujours, parce que l'éventail des passions humaines n'éteindra jamais aucune des lumières de Dieu. » Fermez les guillemets. Nous pourrions résumer cela en quelques mots. Dieu est là pour nous, pour toujours. Et nous sommes là pour nous et pour les autres, en fraternité, en amitié. Il est temps de refermer nos solars et j'espère que ce portrait de Laura apportera consolation, force à celles qui traversent des périodes difficiles, qui peuvent les épuiser, les faire douter du chemin, des enseignements à suivre. Dans la prochaine émission, nous continuerons le portrait de Laura. Nous irons chercher de l'inspiration en regardant quel sens, quel contenu elle donne à son rôle de mère, à nos solars. Pour la prière finale, j'ouvre au hasard le livre des esprits pour trouver un thème qui peut être utile à un auditeur de Radio Kardec. C'est la question 399, livre 2e, chapitre 7, retour à la vie corporelle. Je vous lis la question et sa réponse. Les vicissitudes de la vie corporelle étant à la fois une expiation pour les fautes passées et des épreuves pour l'avenir, s'ensuit-il que, de la nature de ces vicissitudes, on puisse en déduire le genre de l'existence antérieure. Très souvent, puisque chacun est puni par où il a péché. Cependant, il ne faudrait pas en faire une règle absolue. Les tendances instinctives sont un indice plus certain, car les épreuves que subit l'esprit sont autant pour l'avenir que pour le passé. Arrivé au terme, marqué par la providence par sa vie errante, l'esprit choisit lui-même les épreuves auxquelles il veut se soumettre pour hâter son avancement, c'est-à-dire le genre d'existence qu'il croit la plus propre à lui en fournir les moyens. Et ces épreuves sont toujours en rapport avec les fautes qu'il doit expier. S'il en triomphe, il s'élève. S'il succombe, c'est à recommencer. L'esprit jouit toujours de son libre arbitre. C'est en vertu de cette liberté qu'à l'état d'esprit, il choisit les épreuves de la vie corporelle. et qu'à l'état d'incarnation, il délibère s'il fera ou s'il ne le fera pas, et choisit entre le bien et le mal. Dénier à l'homme le libre arbitre serait le réduire à l'état de machine. Rentré dans la vie corporelle, l'esprit perd momentanément le souvenir de ses existences antérieures, comme si un voile les lui dérobait. Toutefois, il en a quelquefois une vague conscience, car elles peuvent même lui être révélées en certaines circonstances. Mais alors, ce n'est que par la volonté des esprits supérieurs qui le font spontanément dans un but utile et jamais pour satisfaire une vaine curiosité. Les existences futures ne peuvent être révélées dans aucun cas, par la raison qu'elles dépendent de la manière dont on accomplit l'existence présente et du choix ultérieur de l'esprit. L'oubli des fautes commises n'est pas un obstacle à l'amélioration de l'esprit, car s'il n'en a pas un souvenir précis, la connaissance qu'il en avait à l'état errant et le désir qu'il a conçu de les réparer le guide par intuition en lui donnant la pensée de résister au mal. Cette pensée est la voie de la conscience dans laquelle il est secondé par les esprits qui l'assistent s'il écoute les bonnes inspirations qu'il lui suggère. Si l'homme ne connaît les actes mêmes qu'il a commis dans son existence antérieure, il peut toujours savoir de quel genre de faute il s'est rendu coupable et quel était son caractère dominant. Il lui suffit de s'étudier lui-même et il peut juger de ce qu'il a été, non par ce qu'il est, mais par ses tendances. Les vicissitudes de la vie corporelle sont à la fois une expiation pour les fautes passées et les épreuves pour l'avenir. Elles nous épurent et nous élèvent, selon que nous les subissons avec résignation et sans murmure. La nature des vicissitudes et des épreuves que nous subissons peut aussi nous éclairer sur ce que nous avons été et sur ce que nous avons fait. Comme ici-bas, nous jugeons les faits d'un coupable par le châtiment que lui inflige la loi. Ainsi, tel sera châtié dans son orgueil par l'humiliation d'une existence subalterne. Le mauvais riche est l'avare par la misère, celui qui a été dur pour les autres par les duretés qu'il subira, le tyran par l'esclavage, le mauvais fils par l'ingratitude de ses enfants, le paresseux par un travail forcé, etc., etc. Je vous retrouve dans quelques instants avec la prière qui va m'être inspirée pour que nous puissions élever nos énergies tous ensemble entre auditeurs de Radio Kardec et prier. Père Céleste, chers esprits qui nous guident, des fois, nous nous interrogeons d'où nous venons, où nous irons, sur ces vies passées et celles qui nous attendent dans le futur. Tout cela nous tiraille, nous triture et consomme beaucoup de notre attention, car nous aimerions en savoir plus pour mieux agir, choisir dans notre quotidien les chemins. Aidez-nous à nous recentrer sur notre présent. Cette vie où nous pouvons agir en direct, faire nos choix en temps réel, continuer à faire le bien avec les moyens qui sont les nôtres. Aidez-nous à mieux nous connaître, où nous devenons nous-mêmes notre sujet d'étude en observant nos émotions face à des situations, nos réactions explosives ou passives, nos idées limitées, si éloignées de vos enseignements. C'est là tout notre champ de travail qui nous est dévoilé. Aidez-nous à supporter ce qui est, à nous élever moralement jour après jour. Vous savez que nous sommes sincères et courageux dans notre démarche de nous améliorer. Et quand nous croisons ou que nous sommes nous-mêmes des tyrans, des mauvais fils, des paresseux, souvenons-nous de vos enseignements. Voyons en ce frère, en cette sœur qui est dans le tourment, une possibilité pour lui ou pour nous de prendre, de donner un nouveau tournant à notre vie. Et que dans nos yeux, il y ait toute la bienveillance d'un père qui sait, qui connaît la loi de causalité. Alors, soutenons-le sans juger. Du plus profond de notre foi, cet autre esprit qui est en train de travailler à son renouveau. Amen.
Chers auditeurs, vous pouvez aller sur les différents sites du mouvement spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. En attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.